Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en universel du mardi 27 novembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi est rentré ce mardi à Kinshasa. C'est pour lancer sa campagne en vue de la présidentielle du 23 décembre. Le président nigérien Muhammadu Buhari se rend demain à Maiduguri, dans le nord-est du pays, alors que le groupe Boko Haram multiplie ses attaques dans la région. Au Burkina Faso, au second jour de sa comparution devant le tribunal, le général Diendéré dit ne pas connaître le commanditaire du coup d'État manqué de 2015. Et puis la Russie met en garde l'Ukraine après la décision de Kiev d'instaurer la loi martiale. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Accueil populaire pour le duo Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe à Kinshasa. Ils sont rentrés ensemble ce mardi pour battre campagne en vue de la présidentielle du 23 décembre. Vital Kamerhe s'est désisté au profit de Tshisekedi. De Kinshasa, la correspondance de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire sur place.
Arrivé vers 12h à Kinshasa, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont tenu une brève conférence de presse à l'aéroport international de Ndjili, au cours de laquelle ils ont réaffirmé leur volonté d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter et appelé la population à soutenir leur ticket. À l'extérieur, les attendaient des milliers de sympathisants et militants qui ont pour certains bravé la pluie qui s'est abattue ce mardi sur Kinshasa pour venir accueillir leur leader. Conséquence, la circulation est restée bloquée des heures durant, des activités paralysées sur le boulevard Lumumba, envahies par des milliers de personnes qui chantaient en l'honneur de deux leaders. Et malgré l'usage par la police des tirs de sommation et des gaz lacrymogènes pour tenter de frayer un passage au cortège de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, les présidents de l'UDPS et de l'UNC n'ont pas réussi, 6 heures après leur arrivée, à atteindre Limété, le siège de l'UDPS et Tshisekedi, où une communication des deux leaders est prévue. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Un prêtre congolais qui effectuait une mission dans le diocèse de Nantes, dans l'ouest de la France, a été mis en examen pour agression sexuelle sur une mineure de 14 ans. Le père Sibia, âgé de 40 ans, est un prêtre du diocèse de Kinshasa et membre de la communauté de l'Emmanuel, qui était en mission depuis septembre 2016 dans la paroisse Sainte-Madeleine à Nantes, a précisé le diocèse. Ce prêtre avait été placé en garde à vue durant le week-end avant d'être mis en examen selon le parquet à Nantes. En Centrafrique, un commerçant a été abattu dans le quartier PK5 de Bangui au lendemain du meurtre d'un chef de milice. Selon des habitants, des membres du groupe de Mohamed Tahir alias Apo, chef d'une milice, ont attaqué des commerçants, tuant l'un d'entre eux. Apo a été abattu dimanche par un commerçant qui avait refusé d'obéir à un ordre de fermer boutique à l'occasion d'une journée ville morte. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari se rendra demain à Maiduguri, aux avant-postes de la guerre contre le groupe Boko Haram, qui a multiplié ces derniers mois des attaques d'envergure contre l'armée. Nani Talani.
Le président Buhari se rendra à Maiduguri, dans l'état de Borno, pour ouvrir la conférence annuelle du chef d'état-major, selon son porte-parole Bachir Ahmad. Cette conférence était initialement prévue à Benin City, dans le sud du pays. Mais la présidence a décidé à la dernière minute de l'organiser à Maiduguri. Muhammadu Buhari, candidat à la présidentielle de février prochain, est très critiqué. L'opposition dénonce le manque de soutien du gouvernement aux troupes nigérianes épuisées et sous-équipées. Arrivé au pouvoir en 2015, il avait promis mettre un terme à l'insurrection islamiste. M. Buhari, un ancien général, avait rapidement assuré que Boko Haram était techniquement vaincu. Mais les attaques et kidnappings ont repris avec plus d'ampleur cette année. Aboubakar Shekau, leader de Boko Haram, annoncé plusieurs fois mort, reparaît souvent sur des vidéos pendant qu'une autre faction de Boko Haram, affiliée au groupe État islamique, multiplie les attaques contre l'armée.
Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a déclaré ignorer le commanditaire du coup d'État manqué de 2015. au deuxième jour de sa comparution au procès des putschistes présumés à Ouagadougou. « Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui a commandité, qui a ordonné le coup d'État », a déclaré l'ancien chef d'État-major particulier du président Blaise Compaoré jusqu'à sa chute fin 2014. Le général Diendéré est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison et meurtre lors du putsch manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés en septembre 2015. Des centaines de personnes ont manifesté ce mardi à Tunis contre la visite du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman dans la capitale tunisienne. Au cri de « Dégage assassin », les manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le peuple veut que Ben Salman soit jugé, non au tueur d'enfants du Yémen » ou encore « Tu n'es pas le bienvenu ». Arborant des drapeaux yéménites et palestiniens, les protestataires voulaient dénoncer l'intervention militaire de Riyad au Yémen et ses liens, selon eux, avec Israël.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président Emmanuel Macron a annoncé que son pays, qui tire plus de 70% de son électricité du nucléaire, va progressivement fermer 14 de ses 58 réacteurs d'ici 2035. Il a aussi évoqué le sujet des manifestations contre la hausse des taxes sur le carburant. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Pris en tenaille entre les gilets jaunes, ce mouvement de citoyens excédé par la hausse des taxes sur le carburant, qui manifestait depuis plus d'une semaine, et les partisans d'une transition écologique rapide, le chef de l'État français a présenté une stratégie à double détente.
Nous devons donc entendre les protestations d'alarme sociale, mais nous ne devons pas le faire en renonçant à nos responsabilités pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'il y a aussi une alarme environnementale. Je dirais même plus, c'est que les inégalités sociales et territoriales que dénoncent à juste titre aujourd'hui nombre de nos concitoyens, elles sont bien souvent doublées d'inégalités environnementales.
En plus des réponses aux revendications des manifestants, le président Macron était attendu sur un autre dossier, la part du nucléaire dans le mix énergétique français.
Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020, avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Je demande donc à EDF de travailler à l'élaboration d'un programme de nouveau nucléaire en prenant des engagements fermes sur le prix pour qu'il soit plus compétitif. Tout doit être prêt en 2021.
À peine élu, Emmanuel Macron a voulu se poser en champion de la lutte pour l'environnement, n'hésitant pas à détourner le slogan de campagne du président américain Donald Trump en déclarant « Make our planet great again », rendez à notre planète sa grandeur.
La tension reste vive entre la Russie et l'Ukraine. Ce mardi, trois marins ukrainiens sur une vingtaine capturés dimanche par les gardes-côtes russes au large de la Crimée ont été placés en détention provisoire. Ils sont accusés d'avoir franchi illégalement la frontière russe. Les précisions de John Lindon.
Ces trois marins seront maintenus en détention provisoire jusqu'au 25 janvier, a fait savoir la déléguée pour les droits de l'homme de la Crimée. Une douzaine de marins ukrainiens ont comparu devant un juge à Simferopol, chef-lieu de la Crimée annexé par la Russie en 2014. Le reste des 24 marins ukrainiens capturés devront comparaître demain mercredi. Dimanche, les gardes-côtes russes ont arraisonné trois navires ukrainiens accusés d'être entrés illégalement dans les eaux territoriales russes. L'incident a été qualifié de provocation par la Russie. L'Ukraine a dénoncé un acte d'agression et a annoncé hier soir l'introduction de la loi martiale pour 30 jours, alors même que la campagne pour l'élection présidentielle de mars doit commencer le 31 décembre. À la suite de cette décision, Moscou a lancé une mise en garde contre tout acte irréfléchi. Dans un communiqué, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a lui appelé l'Ukraine et la Russie à une retenue maximale et à prendre des mesures au plus vite pour réduire les tensions.
Le président Donald Trump a critiqué l'accord du Brexit comme étant un obstacle au commerce avec les États-Unis. Si vous regardez l'accord, il pourrait ne pas être autorisé à faire du commerce avec nous. Et ça ne serait pas une bonne chose, a dit le président Trump. La première ministre britannique a répondu à ses commentaires, estimant que l'accord prévoyait une politique commerciale indépendante et la Grande-Bretagne pourrait bien négocier des accords commerciaux avec d'autres pays. Trois soldats américains ont été tués, trois autres blessés par une bombe artisanale près de la ville de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan. Les talibans ont revendiqué l'attaque, indiquant avoir ciblé un convoi américain. L'OTAN n'a pas donné plus de détails sur les circonstances de ces décès, qui portent à 12 le nombre de militaires américains tués en Afghanistan depuis le début de cette année. L'Iran se dit déterminé à lutter contre un plan en préparation par l'administration américaine de Donald Trump pour un règlement du conflit israélo-palestinien. Le président du Parlement, Ali Larijani, a déclaré que l'accord du siècle était un complot des États-Unis et d'Israël pour asseoir la domination de l'État hébreu sur le Moyen-Orient. M. Trump a promis de conclure l'accord ultime entre Israéliens et Palestiniens. Les contours du plan en vue de cet accord n'ont pas été dévoilés, mais l'inquiète les Palestiniens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nani Talani qui nous présente la Minute Éco.
En Algérie, la Sonatrach, société nationale, et l'entreprise chinoise CITIC ont investi 6 milliards de dollars pour la réalisation d'un complexe d'extraction et de transformation de phosphate dans la région de Tébissa, à 630 km à l'est d'Alger. Grâce à cette infrastructure, la production de phosphate de l'Algérie passera de 1 million de tonnes par an actuellement à 10 millions de tonnes. Le complexe est prévu entrer en production en 2022. Le Zimbabwe a besoin de 171 millions de dollars pour contrer la pénurie alimentaire dans les zones rurales, d'après le groupe de presse Bloomberg. 140 millions de dollars iront à l'achat de céréales et 31 millions de dollars pour acquérir d'autres denrées de base pour fournir une assistance aux ménages vulnérables, notamment dans les régions les plus affectées, dont le Matabeleland North, le Matabeleland Sud et le Massif-Vungan. Enfin, malgré les risques pointés par l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, l'Union européenne va prolonger de 7 ans à partir du 31 janvier 2019 l'autorisation du cuivre dans l'agriculture. C'est l'un des rares bactéricides et fongicides autorisés dans les exploitations agricoles biologiques certifiées. La Commission considère que cette prolongation améliore la protection de l'environnement en limitant les doses d'application tout en maintenant un outil important pour la production des cultures.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Organisation Cannes 2019, l'UNAF met la pression.
En fin de semaine, la CAF va annoncer si le Cameroun est maintenu ou non comme pays hôte de la Cannes 2019. L'Union Nord-Africaine de football a écrit à l'instance africaine pour exiger le respect de tous les critères cités dans le cahier des charges pour l'organisation de la Cannes 2019. Beaucoup ont vu dans ce courrier un moyen de faire pression sur la CAF afin que la compétition soit éventuellement réattribuée au Maroc. Mais le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekdia, a tenu à calmer le jeu, affirmant que le Maroc est et sera toujours aux côtés du Cameroun pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations d'envergure.
L'exploit pour le PSG ou la porte en Ligue des Champions ce soir?
Oui, toujours relégué à la troisième place du groupe C, Paris sera éliminé dès cette phase de poule s'il s'incline au Parc des Princes face à Liverpool et que Naples l'emporte à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade dans le même temps. Un tel scénario serait synonyme de catastrophe industrielle pour les propriétaires qataris qui ont déboursé plus de 400 millions d'euros pour recruter la superstar brésilienne Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017. A contrario, un succès contre le vice-champion d'Europe sortant ouvrirait la voie vers les huitièmes de finale. Coup d'envoi 21 temps universel.
Sadio Mané finalement apte pour cette rencontre.
Bonne nouvelle, fiévreux, l'ailier sénégalais de Liverpool avait été annoncé un temps incertain pour le choc face au PSG. Les raids ont indiqué que Sadio Mané a récupéré et qu'il a pu s'entraîner normalement ce matin. Il figure donc dans le groupe de 21 joueurs retenus pour ce match qui devrait être son premier disputé en club sur le sol français depuis le mois d'août 2012 lorsqu'il évoluait à Metz.
La finale retour River Boc Boca se jouera hors d'Argentine.
Oui, la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Junior, reportée à la suite d'incidents violents samedi dernier à Buenos Aires, se jouera sur un terrain neutre. La finale retour aura lieu le 8 ou le 9 décembre, dans un lieu à définir par l'administration de la CONMEBOL, a annoncé dans un communiqué publié sur Twitter l'instance qui gère le football sud-américain. Lors de la finale allée le 10 novembre dernier, le duel 100% argentin s'était soldé par un match nul 2-2.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Revenons ce soir sur la mort présumée du chef terroriste Amadou Koufa dans le centre du Mali. Il aurait été tué dans un raid des armées françaises et maliennes le week-end dernier. Il y a quelques semaines, dans une vidéo de propagande, Koufa avait appelé les peuples de la région à s'unir pour le djihad. Que signifie sa mort pour la lutte contre le terrorisme au Mali? Bagassi Koura a joint à Dakar Bakary Samb, il est spécialiste du terrorisme en Afrique.
Amadou Koufa peut être considéré comme un produit des frustrations qui ont frappé les communautés peules qui étaient victimes de vols et d'extorsion de leur bétail de la part de certains éléments du MNLA et à un certain moment sont allés apprendre à manier les armes du côté de Atmi. Il y a une différence de perception d'Amadou Koufa qui, sur le plan international, est considéré comme étant le chef du Front de libération du Makina, alors que lorsqu'on se rend sur place, c'est quelqu'un de très isolé, sans grande influence, mais qui a su récupérer une frustration des peuples dans cette région-là, qui n'avaient plus de pâturage et qui commençaient à vivre dans un certain nombre d'injustices de la part aussi bien des forces de sécurité et de défense, mais aussi de certains éléments armés contre lesquels ils ont voulu se défendre, ce qui a poussé certains éléments qui l'ont accompagné à aller apprendre à manier les armes auprès de Acme et d'autres groupes djihadistes.
Alors récemment, on l'a vu dans une vidéo à côté d'autres chefs djihadistes, dont notamment Yag Gali, ça veut dire qu'il avait pris des galons.
Oui, vous savez maintenant que les groupes terroristes ne sont plus dans une forme d'organisation hiérarchisée, mais ils sont surtout dans la logique de captation de toute forme de frustration. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Et donc, ce qui l'a poussé à aller vers IAD, actuellement, il y a des tentatives de regroupement. Mais il ne s'agit nullement d'une organisation hiérarchisée avec un commandement centralisé. Aujourd'hui, les groupes djihadistes ont complètement changé de mode d'opération. Il ne s'agit plus d'organiser des réseaux opérationnalisés, des réseaux à commandement uniformisé. Il s'agit maintenant de capter les conflits locaux, de capter les frustrations locales, d'y mettre une coloration islamique, sachant que s'ils le font, les puissances occidentales vont intervenir et que ça va encore augmenter la frustration. On peut comprendre cette alliance avec cette forme d'alliance, en tout cas visualisée comme une stratégie non seulement de rapprochement, mais de dire que ça y est, nous sommes inscrits dans la mouvance djihadiste et nous partageons les mêmes ennemis pour le moment.
Alors, sa mort, qu'est-ce que ça pourrait changer?
Sa mort ne changera absolument rien dans ce qui se passe actuellement dans le centre du Mali. Au contraire, avant, il y avait le discours et l'idéologie. Aujourd'hui, il y a l'image du martyr qui peut encore accentuer les conflits dans le centre du Mali.
C'était Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute à Dakar.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En République centrafricaine, Mgr Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui, a visité Alindao le 15 novembre, vous vous rappelez. Au moins 60 personnes ont été massacrées dans cette ville du centre du pays. De son côté, Nestor Désiré Zongo Aziagbia, évêque de Bossangoa dans l'ouest du pays, a déploré l'inaction des casques bleus pendant les massacres dans cette ville. Pour un témoignage sur ce qui s'est passé à Alindao, Idriss Fall a joint le cardinal Dieudonné Zapalenga de retour à Bangui.
Dès qu'on savait catastrophe humaine, des pauvres victimes innocents qui étaient dans leur petit cabanon ont été brûlés. Les enfants, les vieillards, tous ceux qui ne pouvaient pas fuir. Nous avons perdu deux têtes. Je peux vous dire que la situation humanitaire est catastrophique. 26 000 personnes se retrouvant en bourse dans un petit village où il n'y a pas beaucoup à manger et à boire. Nous avons vu des gens revenus de la bourse et qui ont commencé, les enfants surtout, à vomir. Parce qu'ils ont bu de l'eau souillée. Et nous avons vu aussi des gens qui reviennent famélis. Ils n'ont pas à manger. La situation est catastrophique parce que les humanitaires ne peuvent pas avoir accès à ce village-là. J'ai vu de mes yeux des gens qui grattaient le sol pour rechercher le riz ou encore la nourriture brûlée où il y a encore des petits restes. Les groupes s'accusent en disant que c'est les Balakas qui sont sur le site. Les Télécas disent que c'est eux qui tuent des gens. Ces deux groupes sont les groupes armés. Ils n'ont pas à s'imposer dans la ville, c'est plutôt la MINUSCA. Et la MINUSCA nous a annoncé qu'ils sont en infériorité numérique. Ils ne peuvent pas contrôler ni assurer la sécurité. Et le pire est arrivé. Nous espérons que la communauté internationale, le gouvernement, prendront leurs responsabilités.
Le gouvernement ne contrôle même pas une bonne partie du territoire. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement centrafricain?
Trois quarts du pays ne sont pas contrôlés par le gouvernement. C'est la triste réalité. Le gouvernement, c'est Bangui, mais il y a trois quarts du pays, ce sont les groupes armés qui contrôlent. Nous avons interpellé le gouvernement en leur disant, c'est à vous de voir avec la communauté internationale comment faire pour protéger les populations. Le rôle évolue à la MINUSCA, au nom de la communauté internationale, de protéger les civils et des biens.
Mais la MINUSCA a déjà reconnu qu'à Alindao, elle était débordée, elle n'a pu rien faire. Et c'est pareil partout, à Batangafo et à Bambari aussi.
Si vous êtes débordé, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez quand même faire une sommation. Au moins, les gens pourront savoir que vous avez au moins essayé. Mais on n'a même pas essayé. On n'a rien fait. On a vu seulement le déferlement et le goût amer est resté pour les gens.
Est-ce que vous avez appelé à une journée de deuil le 1er décembre qui doit correspondre à des festivités?
Le jour du 1er décembre, jour des festivités, venant de Alindao, le premier vice-président de la conférence épiscopale Monseigneur Nestor, venant de Batangafo, nous avons croisé nos informations. Nous ne pouvons pas être en fête alors que nos frères sont en bourse et on a perdu des êtres chers. Nous avons préféré prendre ce jour-là comme jour de prière, jour de deuil. Et le 2 décembre, nous demandons à tous les chrétiens de mobiliser leurs moyens pour aider nos frères et nos sœurs.
Le cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les autorités béninoises ont salué le courage et la détermination du président Emmanuel Macron qui a annoncé que la France allait restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par Cotonou. Le président français entend aussi réunir les partenaires européens et africains pour construire une politique d'échange. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
Les objets d'art africains exposés à Paris pourraient bientôt se retrouver dans des musées en Afrique. 90% du patrimoine culturel du continent se trouve en Europe, dans des collections publiques et privées. Marie-Cécile Zinsou est la présidente de la Fondation Zinsou à Ouida, au Bénin.
Dans le cas du Bénin, les œuvres sont parties avec le pillage colonial en 1892. Le général Dodds a emmené une partie des œuvres qu'il a données au Musée de l'Homme et une partie des œuvres sont parties aux soldats et réapparaissent sur le marché de l'art de temps en temps. D'autres œuvres ont été données ou léguées au Musée de l'Homme puis au Musée du Quai Branly et certaines ont été acquises au cours du XXe siècle.
Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises. Plus de deux tiers de ce patrimoine du continent se trouve au Quai Branly, dont 46 000 acquises durant la période 1885-1960. Récemment, le Bénin a réclamé la restitution de certains des objets d'art de son patrimoine, environ 5 000 œuvres exposées dans des musées en France. Début 2018, le président Macron a décidé d'amorcer un changement, indiquant que le patrimoine africain ne devrait pas être seulement dans des musées français. Patrick Sivek est professeur d'art à la retraite.
Ça permettrait peut-être aux habitants de ces pays-là de connaître un peu mieux le fond culturel de leur pays, quoi. parce qu'en fin de compte, là-bas, il n'y a pas grand-chose qui peuvent, comment dirais-je, avoir un rapport avec leur histoire culturelle et notamment artistique, puisque tout est parti en Europe. Donc ça serait pas plus mal que les populations de ces pays-là puissent aussi avoir accès assez facilement à ces œuvres.
Claude Fourquet est un passionné de l'art africain.
À partir du moment où on a mis autant de moyens pour les mettre en place ici, je pense que si, est-ce qu'il n'y a pas autant d'œuvres qu'on pourrait exposer à ce moment-là réciproquement donc, dans d'autres pays, et est-ce qu'il n'y a pas aussi des œuvres occidentales qu'on pourrait aussi exposer, enfin je ne sais pas, ça peut être un point de départ, disons, à créer des liens.
Seulement 26 objets d'art seront restitués pour le moment à l'État béninois. Toutefois, l'Élysée affirme que la restitution des œuvres béninoises ne doit pas constituer un cas isolé ni purement symbolique. Paris souhaite que toutes les formes possibles de circulation soient considérées, restitution mais aussi exposition, échange, prêt, dépôt et coopération. C'est sur cette base que l'Élysée réunira à Paris au premier trimestre de l'année prochaine l'ensemble des partenaires africains et européens pour définir le cadre d'une politique d'échange.
Étudier au pays ou étudier à l'étranger, que préférez-vous? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. Les étudiants africains ont un taux de mobilité deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. Vous êtes donc nombreux à intégrer des facs et des écoles à l'autre bout du monde. Pourquoi? Quels sont les avantages d'un cursus à l'étranger? Les étudiants africains ont-ils les moyens de partir? Et quelles sont les destinations les plus prisées? Morgane Guiriec, en votre compagnie, réagissait en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump défend l'utilisation de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre pour arrêter un groupe de migrants d'Amérique centrale qui tentait de s'introduire de force sur le territoire américain. Les autorités des deux côtés de la frontière ont arrêté des migrants et s'engagent à poursuivre les auteurs d'actes de violence. Morgane Guiriec.
Dimanche, à Tijuana, au Mexique, quelques 500 migrants venus d'Amérique centrale, dont des femmes et des enfants, après une manifestation pacifique aux abords de la frontière, se sont subitement dirigés vers la barrière métallique pour tenter de passer illégalement vers les États-Unis. Les forces américaines ont tiré des gaz lacrymogènes pour leur barrer la route. Des responsables américains ont déclaré que des membres de la caravane de migrants ont lancé des projectiles sur les gardes-frontières. Le président Donald Trump, qui a déployé des milliers de soldats pour soutenir les opérations à la frontière, a défendu ce recours à la force. Ils ont dû y recourir car ils ont été contraints par des gens très durs et ils ont utilisé des gaz lacrymogènes. Personne ne rentre dans notre pays à moins d'y entrer légalement. La police de Tijuana a arrêté des dizaines de migrants qui tentaient de franchir illégalement la frontière. Sur les médias locaux, le chef du service mexicain des migrations a indiqué que près de 100 migrants, pour la plupart des Honduriens, ont été renvoyés vers leur pays d'origine. Les services américains de douane et de protection des frontières disent avoir arrêté 69 personnes. La police des frontières a toutefois reconnu que de nombreux migrants ont réussi à traverser sans se faire arrêter. Erlin Juarez, bloquée à Tijuana, fait partie des milliers de migrants qui veulent échapper à la pauvreté au Honduras. Nous devons utiliser la force pour faire pression sur Trump afin qu'on nous laisse rentrer. Ils mentent quand ils disent qu'ils vont régler la paperasserie, car nous sommes trop nombreux. Des groupes de défense des droits de l'homme accusent le président Trump d'avoir provoqué cette crise en mettant fin au programme d'asile. Melissa Crowe de la Southern Poverty Law Center. En utilisant des gaz lacrymogènes, l'administration Trump empêche les gens de s'approcher de la frontière, même entre des points d'entrée. Et la raison pour laquelle ils le font, depuis assez longtemps maintenant, c'est qu'ils ne sont pas autorisés à présenter et à demander l'asile à ces points d'entrée officiels. Lundi, Donald Trump a de nouveau menacé de fermer de manière permanente la frontière qui s'étend sur 3000 km et qui représente un axe commercial majeur. Il a aussi menacé de fermer le gouvernement fédéral à moins que le Congrès finance le projet de mur frontalier.
Au Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, à la console Wang Chang, à la présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Et dans un peu moins d'une minute, un autre point sur l'actualité avec Henri Francis. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.